8 milliards de voisins, c'est maintenant.
8 milliards de voisins avec Laurence Garcia.
Bonjour et bienvenue à vous les voisins et les voisines. Il y aurait un nouveau culte du muscle chez les plus jeunes accros aux salles de sport. Certains y voient l'influence narcissique des réseaux sociaux et des corps photoshopés en mode « je muscle, on me mate, donc je suis ». D'autres évoquent une revanche des corps chez les plus jeunes privés de liberté durant la crise du Covid. Alors d'où vient cette nouvelle obsession pour la musculation et comment sculpter, entretenir son corps sans tomber dans l'extrême? On en parle avec vous qui nous écoutez et nos invités. Bonjour Guillaume Vallée.
Bonjour.
Vous êtes professeur en sciences économiques à l'université Grenoble-Alpes, auteur de l'essai La fabrique du muscle chez l'échappé, avec un angle très très intéressant hein, et plutôt original, vous nous le raconterez, sur la performance du corps et les logiques économiques. Vous êtes également bodybuilder, vous hein ?
Tout à fait, je pratique depuis 27 ans maintenant.
Ceci explique peut-être cela. Et vous êtes en duplex de France Bleu Isère à Grenoble, dont on remercie bien sûr les équipes techniques. Bonjour Jérôme Quadrado.
Bonjour.
Docteur en psychologie, psychologue clinicien, préparateur mental à Bordeaux, chercheur associé au laboratoire ISCJ de l'Université de Bordeaux. Vous-même, grand sportif aussi, hein ?
Oui, plutôt multisport et aussi adepte du coup de la salle de musculation.
Et bien voilà, la salle de musculation, on va en parler d'ici une quinzaine de minutes. Justement, on écoutera le reportage de Charlie Dupio dans une salle de sport parisienne à la rencontre d'étudiants accros aux machines. On sera également en ligne avec Sarah Cozzolino. C'est la correspondante de RFI à Rio de Janeiro où là-bas, vous le savez certainement, le culte du corps musclé et bronzé est une véritable obsession. Et puis bien sûr, vous qui nous écoutez, quel est votre rapport au sport et aux muscles, on attend vos témoignages au 33 7 64 45 51 41.
RFI.
8 milliards de voisins.
Bonjour RFI.
J'adore l'émission.
Je suis RFI 787.
Nous sommes ensemble. Et nous devons marcher ensemble.
Et je commence avec vous, Guillaume Vallée, dans votre ouvrage. Vous faites un parallèle entre le capitalisme et le corps. Qu'est-ce que vous appelez le capitalisme des vulnérabilités ?
Alors pour moi, le capitalisme des vulnérabilités, il a plusieurs caractéristiques. La première, c'est de considérer que c'est une forme de capitalisme qui est apparue à partir des années 1980 et qui fonctionne beaucoup selon le principe du néolibéralisme. C'est-à-dire que l'État se désengage de nombreuses politiques et c'est donc à l'individu de se responsabiliser, de s'entreprendre, de se construire un projet. Donc ça, c'est vraiment une caractéristique première qui est fondamentale. La deuxième, c'est que, étant donné que l'État se désengage, on a plutôt l'impression que le marché progresse dans de nombreux domaines qui jusque-là n'étaient pas forcément ouverts. Et en particulier le monde du sport, le modèle associatif se réduit, on a plutôt affaire à des logiques de consommation. Donc le marché diffuse un esprit qui est complémentaire de ce que j'ai dit juste avant, c'est-à-dire qu'il faut s'entreprendre et puis c'est en allant sur un marché qu'on va pouvoir obtenir une récompense. Et puis, puisque je parle de vulnérabilité, ça veut dire qu'on a affaire à des crises qui affectent tout le système, que ce soit financière, que ce soit des crises sanitaires, comme on a vu avec le Covid, qui accroissent les vulnérabilités, c'est-à-dire un sentiment de manque de ressources des individus. Et face à ce manque de ressources, eh bien, les individus vont chercher à se tourner vers celles dont ils disposent le plus facilement, c'est-à-dire leur corps, et considérer que le corps, c'est une ressource à transformer en capital. C'est ce capital qui va les protéger. Et bien sûr que les pratiques de développement du muscle ne sont pas apparus uniquement depuis les années 1980. Mais c'est pour moi dans ce contexte global que la centration plus grande sur le corps est apparue et a forcé un petit peu plus les individus à considérer leur corps comme une voie de salut, on pourrait dire.
Ouais, le corps devient son propre capital personnel, en fait. Hein.
Tout à fait.
Alors vous évoquez les années 80-90, c'est pas anodin. Au cinéma, les héros, c'est Rocky, Rambo, Stallone, Schwarzenegger. Voilà, on est dans le muscle visible, massif, là encore. Encore, c'est pas anodin ces héros-là. Je vais poser la question à Jérôme Quadrado.
Oui, mais on a quand même une trame hein, au niveau de la culture occidentale qui s'est toujours inspirée de cette association entre la muscularité, entre la puissance et aussi la force. Et ça remonte au temps mythologique. C'est pour ça, aujourd'hui, on va peut-être aussi aborder le thème de la dysmorphie musculaire, mais oui, c'était aussi appelé sous le terme de complexe d'Adonis pour faire un peu écho à cette obsession du muscle et de la beauté qui date, en fait, et qu'on peut retrouver aujourd'hui de manière très contemporaine à travers les médias, la filmographie et aussi aujourd'hui à travers les réseaux sociaux centrés sur les images, on va dire, du corps et de l'alimentation.
Ouais. Le bodybuilding, bon, bah là pour le coup, Guillaume Vallée, je m'adresse au bodybuilder que vous êtes. Vous dites aujourd'hui, c'est plus du tout à la mode, en tout cas chez les jeunes. Ça développe un muscle inutile, dites-vous.
Oui, parce que en fait, le bodybuilding, qui a toujours été finalement un sport un petit peu de niche, hein, historiquement, même s'il a pu être popularisé davantage par des personnes que vous avez citées comme Arnold Schwarzenegger, en fait, il a pour objectif de construire le plus de masse musculaire possible. Alors certes, en gardant un certain équilibre et puis en étant finalement le plus sec possible, comme on dit, avec c'est-à-dire le moins d'eau visible et de graisse possible. Mais bref, il correspond pour moi plutôt à une période dans son âge d'or, c'est-à-dire fin des années 80, début des années 90, où on était au cœur de l'affrontement Est-Ouest. Il fallait accumuler de la masse, il fallait montrer qu'on est capable de repousser de façon infinie cette accumulation-là. Et finalement, il y avait deux modèles qui s'opposaient. Aujourd'hui, par rapport aux vulnérabilités dont on a parlé tout à l'heure, je pense qu'on est beaucoup plus à la recherche d'un muscles, alors certes visibles, parce que comme l'a dit Jérôme, on est beaucoup dans les interactions, les réseaux sociaux jouent un rôle fondamental là-dessus.
Oui, on en parlera tout à l'heure, ouais, des réseaux sociaux, forcément.
Une certaine image, il faut afficher une certaine image, certes, mais si on veut répondre aux vulnérabilités d'aujourd'hui, c'est-à-dire répondre à une agression rapide dans la rue, faire face à un imprévu comme monter, faire une traction rapidement en cas de problème d'inondation, par exemple, voilà, je cite ces deux exemples-là, bref, il faut un muscle plus fonctionnel, donc un muscle moins massif et un muscle qui soit entraîné quand même avec une certaine endurance, et c'est pour ça que des activités comme le crossfit ou le street workout sont devenues assez populaires, finalement, plus que le bodybuilding.
Ouais, le muscle plus utile. Vous l'observez, vous aussi, Jérôme Quadrado, dans les envies aussi des plus jeunes ?
Alors oui, on a une évolution quand même ces dernières années, parce que j'ai travaillé aussi 10 ans dans l'encadrement sportif, en salle de musculation. On n'a pas du tout les mêmes demandes là sur les 10 dernières années, sur en tout cas cette volonté d'avoir une hypermuscularité qui était très présente hein, il y a une bonne dizaine d'années, et qui aujourd'hui beaucoup plus une recherche beaucoup plus esthétique, beaucoup plus dans la tonicité, vous voyez, dans quelque chose aussi de l'ordre, on va dire, du côté pratique, hein, parce qu'effectivement ce muscle hypertrophié au maximum, et au niveau de la transférabilité des compétences, bah, là c'est pas optimal, non. Donc effectivement, on a une évolution des demandes aussi.
Ouais, évolution des demandes, mais ça reste quand même malgré tout une histoire d'homme, Guillaume Vallée, et de domination ou pas?
Oui, parce que en fait, historiquement, le sport moderne est vraiment apparu avec la domination des hommes et l'association du muscle au masculin, ce qui a d'abord, par exemple, privé les femmes de pouvoir pratiquer l'ensemble des sports qu'elles souhaitaient, ce qui a aussi créé des différences et des discriminations entre les ethnies hein, pendant très longtemps. Bref, mais on reste marqué par cette idéologie du muscle, de la culture du muscle comme étant exclusivement masculine. Alors, les choses ont quand même bien changé, oui. Parce que on voit aujourd'hui beaucoup plus de mixité dans les salles et un petit peu les codes qui sont cassés, c'est certain, mais on a toujours cette, je dirais, un petit peu cette poche de masculinité qu'on qualifie parfois d'hégémonique et qui associe la taille du muscle, la puissance du muscle au monde des hommes.
Ouais, et puis à la limite, si les femmes, les jeunes femmes, investissent des salles de sport musclées, mais pas trop, quoi. Faut qu'elles restent minces aussi. Il y a des normes esthétiques, Jérôme Quadrado.
Alors, c'est pour revenir un peu aux objectifs et aux demandes, effectivement, ouais. on va aussi avoir une analyse très singulière dans ce que vous soulevez, c'est-à-dire qu'on va avoir des pratiquantes, là je parle du coup féminin, qui vont venir dans une optique esthétique, voilà, d'une pratique esthétique harmonieuse, d'autres qui vont être dans une pratique beaucoup plus massive, hein, beaucoup plus dense en termes de muscularité, mais elles ne vont pas avoir les mêmes vulnérabilités, la même histoire de vie. On a pu remarquer que, par exemple, des jeunes pratiquantes qui pouvaient pratiquer le bodybuilding, notamment avec une optique de compétition, étaient en tout cas des pratiquantes qui avaient souvent souffert d'agressions dans leur histoire de vie. Et il y avait vraiment une pratique compensatoire qui se mettait en place, notamment dans la demande et les objectifs de pratique. Donc, vous voyez, on n'a pas forcément les mêmes demandes qui vont sous-tendre une pratique chez un individu ou un autre. On est vraiment sur une analyse, effectivement, de vulnérabilité commune, mais aussi très singulière dans l'histoire de vie.
Oui, forcément. On a un appel au 33 7 64 45 51 41. On prend la direction du Sénégal.
8 milliards de voisins. On est ensemble.
Good morning. Bonjour.
Salut les voisins.
Salam alaikum.
Merci à ce violo.
Buenos dias.
À quoi va les voisins et les voisines?
Et c'est Oumar qui nous appelle de Mbour au Sénégal. Bonjour Oumar.
Bonjour, 8 milliards de voisins.
Alors dites-moi, cher voisin, vous, alors il paraît que vous y allez, hein, en fait, 2 heures de muscu, 3-4 fois par semaine depuis 20 ans déjà maintenant?
Ah oui, bientôt 20 ans, bientôt plus de 20 ans, quelque chose comme ça.
Et qu'est-ce que ça vous apporte? C'est pourquoi? C'est pour la santé? C'est pour le plaisir? Qu'est-ce que vous recherchez?
Tout le monde, c'est pour la santé. On a l'habitude de dire un esprit sain dans un corps sain. Donc il faut faire du sport, il faut avoir une bonne mine pour vraiment être en bonne santé d'abord. Oui. Parce que moi, je peux même vous donner même des exemples. Je peux rester pendant des années et des années sans pour autant avoir des petites maladies, quelque chose comme ça, des maux de tête, des maux de ventre, à cause vraiment de ce que je pratique.
Oui, c'est ça. Mais alors, Oumar, vous allez quoi? Vous allez dans des salles ou est-ce que vous travaillez chez vous? Comment ça se passe?
Ah bon, je fréquente d'habitude à 65% les salles. Au début, j'avoue que c'était un peu difficile parce qu'il n'y avait pas trop de salles ici à Hambourg, donc ce n'était pas multiplié. Donc l'accès pour les salles de musculation, c'était difficile. Mais maintenant, il y en a à gogo. Donc tu ne parcours pas 10 km sans voir une salle de musculation.
Ouais, ça a explosé
donc,
aussi.
Je fréquente là-bas.
Ouais. Ouais. Ça a explosé quoi, depuis le Covid ou bien
non,
avant?
Ça c'est bien avant.
Ah,
ça,
oui.
C'est bien avant la Covid. Bien avant la Covid.
Ouais.
Peut-être depuis 4 ans derrière, quelque chose comme ça. Et puis la Covid, c'était il n'y a même pas longtemps, la Covid était là.
Ouais.
Donc ça, ce que je suis en train de dire, c'est 4 ans, c'est 5 ans derrière comme ça que les choses ont commencé à évoluer.
Oui. Vous le dites, vous, ça fait plus 20 ans, mais est-ce que vous considérez addict ou pas? C'est-à-dire que si vous en faites pas de la muscu, vous êtes en manque.
Ah non. C'est-à-dire que l'exposition, vous parlez d'exposer son corps, quelque chose comme ça, ou bien?
Oui, d'exposer, ou même d'avoir besoin de faire du sport tout le temps, si vous en faites pas, vous sentez mal.
Non.
Okay.
C'est-à-dire, c'est pas où on dit que non, il est à cause de la musculation, non, c'est pas à cause de la musculation.
Ouais.
C'est-à-dire que, voilà, je le fais comme ça parce que bon, dès que je sens quelque chose qui ne va pas chez le corps, donc voilà, mon premier médicament, c'est le sport.
Et voilà, premier médicament naturel. Merci beaucoup pour votre témoignage, Oumar, hein, du côté du Sénégal. Et dans quelques instants, on parlera quand même aussi de l'addiction chez certains dans cette course au corps soi-disant parfait. On se retrouve après le trio marseillais Zar Electric avec Sadié sur RFI. César électrique sur RFI, bienvenue à vous. Si vous nous rejoignez dans 8 milliards de voisins et de voisines, on parle du nouveau culte du muscle chez les plus jeunes accros aux salles de sport avec nos invités Guillaume Vallée, professeur en sciences économiques à l'université Grenoble-Alpes, auteur de l'essai La fabrique du muscle chez l'échappé, et Jérôme Quadrado, psychologue clinicien et préparateur mental à Bordeaux. Messieurs, je vous propose d'écouter le reportage de Charlie Dupuyot dans la salle de sport parisienne Magic Form, c'est comme ça que ça s'appelle. Elle y a rencontré trois étudiants de 18 ans. Nizar a déjà, lui, le front en sueur. Il nous décrit son premier exercice de la matinée.
Du coup, donc là, je tire.
Tu es assis, tu as contre toi un support qui te permet de vraiment poser ton ventre et ton buste en fait contre lui.
Oui, c'est ça.
En fait, tu peux attraper deux manivelles, on va dire, que tu amènes vers toi. Et quand ça fait ça, en fait, ça soulève un poids.
Exactement.
Et là, ça soulève combien de kilos?
Là, c'est juste 14 kilos. On peut monter, on va à 32. Soit on essaie de bien écarter les bras pour que le dos soit bien sollicité.
Et là, tu as mis 32 kilos?
Oui, là, j'ai juste mis 32 kilos.
Tu dis juste?
Ouais, parce que c'est pas beaucoup. Après, je peux aller jusqu'à 45, je pense.
Je vais essayer pour voir si c'est dur. Voilà.
Mettez vos pieds vers là.
Ah oui. Oula. Ok, bon, je vais m'arrêter là. Les 32 kilos, c'était trop pour moi.
Non, non, monte, monte. Voilà.
Oui. Moi, c'est Manon, j'ai 18 ans. Je vais à la salle depuis que je suis vraiment toute petite. Mes parents, ils m'avaient inscrit ici pour les cours enfants. Et j'ai continué. Je faisais avec des coachs, tout ça.
Des cours de musculation?
Musculation adaptée, tout ce qui est éveil musculaire. Et en fait, j'ai avancé avec l'âge, sans forcément chercher à faire du bodybuilding, à former mon corps, tout ça. C'est vraiment pour la santé, pour la tête. Et du coup, comme tout ce qu'on fait ça, je suis un peu devenue accro, je fais plus sans. Je viens en fait faire du sport avant, comme maintenant, ou après les cours. Et donc, on se met ici.
Tu t'allonges par terre.
Alors là, je suis par terre.
Donc là, en fait, tu te suspends une barre qui est au-dessus de toi. Tu as les bras tendus et tu remontes en fait en t'aidant des bras et en les pliant pour que ta tête s'approche de la barre.
Exactement.
Comment tes parents voient ça, ton implication dans la salle de sport?
Maintenant, très fier, très content que j'ai cette motivation dans la tête et ça apporte une forme de maturité. Mais avant, surtout du côté maternel, c'était « mais attention, t'es une fille quand même, être trop musclée, ça va pas être super féminin. » Ou alors « attention, mais faut pas trop, ça va t'empêcher de grandir, c'est pas bien. » Puis même « attention, c'est dangereux si la barre elle te tombe dessus, tout ça. » Mais ils restent fiers, ils sont contents.
Et tu as l'air, vous avez l'air de beaucoup connaître les noms des muscles. Ça vous vient d'où cette expertise?
Ça fait longtemps que je traîne un peu dans les salles de sport, mais l'année dernière au lycée, j'ai eu musculation. Et en fait, on a eu un contrôle à la fin de l'année où le prof, il avait sa tablette. On devait en fait connaître tous les muscles.
Ou sinon, il y a aussi les vidéos. Des vidéos sur YouTube qui justement montrent les exercices. Et en même temps, bah, ils montrent les muscles qui sont travaillés.
Est-ce que tu pourrais nous montrer le genre de vidéo que tu regardes?
Attendez, je vais regarder.
Donc c'est des influenceurs?
Oui.
Eh hey, toi là, tu veux progresser aux tractions, mais t'es claqué. Que t'en aies une, deux ou dix, à la fin de ces 30 jours, t'arriveras à en faire 20, c'est promis.
Comme par exemple, il y a Manga Workout.
Manga Workout, parce qu'il y a des références au manga?
Oui, et souvent il fait des vidéos par rapport à ça, mais en même temps il montre comment se muscler.
Ah oui, là on a des dessins de manga avec des hommes très 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 musclés du dos.
C'est ça.
Et du ventre.
Mais les meilleurs programmes en salle de sport pour débutants, ou comment réussir à enchaîner 20 tractions.
Donc dans cette vidéo, vous allez avoir des programmes d'entraînement en fonction de votre niveau, vous allez avoir un tutoriel pour débutants, et normalement, les tractions vont devenir quelque chose d'aisé pour vous.
Là, on voit ça en vidéo, hein. Ce qu'il dit, il le dit face caméra, mais on a aussi des images, on voit en vidéo, lui qui fait une traction.
Dans le cadre des tractions, vous allez travailler avec énormément de tension, d'étirement.
Comment tu décrirais tes muscles?
Suffisamment gros, vraiment pas. Bah, plus les biceps, parce que j'ai l'impression de ne pas en avoir assez.
Les biceps, c'est dans le bras.
Oui, dans le bras, exactement. Après, c'est surtout le dos aussi. Moi, j'aimerais bien le travailler juste pour voir plus les muscles ressortir. Parce que j'ai l'impression que c'est joli sur les autres. Du coup, je pense que ce sera plus joli sur moi.
Le regard des autres, ça m'a toujours touchée. Et ça me touchera toujours, je le sais. Mais c'est embêtant, oui, sur les réseaux, les vidéos les plus likées, c'est les mecs musclés, les filles minces avec des grosses fesses. Et voilà. Et du coup, nous, on est là, on est ici, bah, pourquoi ? Ah, bah, pour être mince, pour avoir des grosses fesses, et les garçons, ah, pour être musclés. J'ai pas le ventre plat que de toutes les, enfin, toutes les filles, de certaines filles, voilà, j'ai pas le ventre plat, j'ai pas la trace des abdos, j'ai du gras là qui dépasse de ma cuisse. Donc, ouais, il y a toujours plus, il y a toujours mieux.
Moi, je m'appelle Ethan, du coup, j'ai 18 ans. Je suis, bah, comme mes deux amis, en cours à la Sport Management School, donc en première année, qui est l'école qui est pas très loin d'ici. Je vais à la salle de sport depuis que j'ai 15 ans.
Depuis l'âge de 15 ans ? Pourquoi depuis l'âge de 15 ans ?
Parce que j'aurais bien voulu avant, mais que donc là où je vis à Chartres, il n'y a aucune salle qui accepte les adolescents en dessous de 15 ans. Parce que quand j'étais petit, j'étais un petit peu plus rond, on va dire. Quand on commence, il y a beaucoup d'exercices qu'on n'arrive pas du tout à faire, qui sont très très loin, qui sont sur des planètes différentes même. Et au fur et à mesure d'acharnement, de sueur, etc., etc., on arrive à commencer à le réussir. Et il y a des exercices où il y a un jeu de fierté quand même un peu.
Moi, il y a quelque chose que je fais, c'est qu'en fait, je me suspends.
Tu es debout, tu te suspends à une barre.
Par exemple, ici, vous avez une structure en hauteur avec de quoi s'accrocher. Et en fait, je reste suspendue le plus longtemps possible. La première fois où j'ai tenu 15 secondes, je me suis posée, j'étais avec un coach, je l'ai regardé, j'ai pleuré. Rien que ça, je pensais que j'allais jamais y arriver parce que j'aurais jamais assez de force. Et là, d'un coup, c'est venu. Et ceux qui écouteront ça et qui savent faire 25 tractions naturellement se diront c'est tout pourri. Et moi, avant, j'y arrivais pas, donc 15 secondes, c'est super.
Quand justement on chope la discipline, etc., etc., on chope un certain mindset qui va vraiment être utile, que ce soit dans notre vie, pour les cours, pour le travail, etc., pour toutes les expériences qu'on a.
Un état d'esprit.
Ouais, c'est ça.
Et en fait, après, on l'applique dans la vie, juste se dire je suis capable.
Des jeunes accros, salle de sport, reportage signé Charlie Dupio. Il y a toujours mieux, dit une jeune étudiante. Alors forcément, il parle beaucoup du regard des autres, des star fitness sur les réseaux sociaux qui mettent une forme de pression aussi dans le toujours plus. Comment vous écoutez tous ces propos, Guillaume Vallée, de ces jeunes ?
Ça me fait penser à plusieurs choses qui correspondent au titre de mon livre, justement, cette importance de la fabrique du muscle en matière de processus de production, où il faut s'organiser, il faut contrôler, il faut essayer de faire en sorte de maîtriser certaines techniques. Je pense que cette dimension-là est vraiment, encore une fois, le reflet du capitalisme pour moi. Et puis, le deuxième sens de fabrique, c'est cette importance de la salle, de ce qui se passe dans cet endroit, où on a une organisation de l'espace particulière, où on peut aussi avoir des liens qui essaiment à partir de cette fabrique-là, parce que on va avoir des coachs, on va avoir des influenceurs, des références externes, et puis peut-être se forger un corps pour se préparer à la vie active, hein, comme le laissait entendre l'étudiante, où elle disait, voilà, j'ai un corps qui me permet vraiment d'être plus à l'aise à l'extérieur, j'ai une rigueur de vie. Donc il y a cette dimension-là qui vraiment pour moi était très présente dans le reportage. Et puis forcément, ce sont des moments où on est à la recherche d'émotions, des émotions certes très individualisées. Et moi, dans mes recherches, beaucoup me disaient cette phrase, je le fais pour moi, je pense que c'est réel.
Ouais.
Parce que en faisant pour soi, on maîtrise le processus de A à Z et c'est ce qui plaît.
Tout en ayant besoin d'être regardé aussi. Hein.
Exactement, ouais. Parce que je le fais pour moi, mais dans un certain cadre social. Parce que je sais que ce corps peut me donner un statut social et c'est aussi une forme de jouissance et de récompense collective. Le fait de pouvoir être parvenu à démontrer aux autres qu'on a atteint un objectif qui était fixé à l'avance. Donc il y a tout ce cadre-là qui est intéressant aussi et qui ressortait bien dans le témoignage des trois personnes.
Ouais, comment vous les avez écoutés, vous, qui en voyez beaucoup, hein, Jérôme Quadrado, des jeunes, voilà. Il y a toujours mieux aussi, cette quête du toujours mieux.
Alors oui, il y a toujours cette quête du toujours mieux, mais vous voyez, à travers le témoignage de vos auditeurs, moi je suis quand même assez rassuré de leur discours, puisque, et je pense que Guillaume pourra aussi peut-être rebondir sur ce que je vais amener, parce que c'est aussi du coup, il a une expertise de terrain en tant que pratiquant, mais aussi de par son expertise académique, mais on avait quand même des jeunes qui avaient une motivation de pratique qui était principalement, en tout cas, comment il l'a présenté, intrinsèque, c'est-à-dire qu'ils avaient une pratique curieuse, structurante et structurée au quotidien. Il remplissait aussi, on va dire, un peu les quotas d'activité physique au quotidien. Donc, on est quand même sur une pratique plutôt santé. Il y avait une notion de plaisir, il y avait une notion de dépassement, de réappropriation du corps et de bien-être mental. On est quand même sur une pratique qui fait du bien.
Oui.
Et là où, effectivement, on pouvait rencontrer plutôt ce qu'on pourrait appeler des pratiques problématiques de l'activité physique, qui sont l'opportunité de réguler ou d'éviter des effets négatifs par une activité physique un peu compulsive, déstructurée, et bien mais c'était souvent sous-tendu par des motivations qui étaient extrinsèques. Je pratique pour l'appropriation d'un autre, je pratique pour la validation, par exemple, sur un réseau social. C'est ce qu'on a mis en avant, en tout cas, dans nos études, notamment sur le côté des, on va dire, des facteurs qui vont sous-tendre une pratique problématique. On avait systématiquement ce qui revenait dans nos modèles finaux, c'était les difficultés d'identification des émotions, une pratique systématiquement autour de la douleur, la congestion et l'approbation, on va dire aussi du regard de l'autre. L'objectif de masse musculaire exclusive et beaucoup de comparaisons aux autres et notamment aux modèles de référence. Et on avait énormément du coup de jeunes, parce qu'on a beaucoup accompagné de populations jeunes, qui pratiquaient avec une, on va dire, une pratique aussi usuelle des réseaux sociaux. C'est-à-dire, je regarde, j'imite et j'essaye de ressembler à, alors qu'il y a une réelle déformation présente dans les médias sur la normalité pensée du corps.
Ouais, ouais, forcément. On a un autre appel au 33 7 64 45 51 41, et cette fois-ci on va du côté du Gabon.
RFI à Libreville, 104 FM.
Et c'est Armel qui nous appelle de Libreville. Bonjour Armel.
Bonjour à vous.
Alors, je crois savoir que vous, votre fils, il fait de la musculation tous les jours, et en tant que papa, ça vous inquiète un peu, c'est ça?
Oui, oui, oui. À un moment, ça a été comme une obsession. L'enfant se réveille les 4h, 5h du matin pour travailler son corps, comme ils le font. Dis-moi, je veux avoir un corps comme les grandes stars qui le voient dans le football, Ronaldo, Messi et les autres. Donc, il veut avoir mes plaquettes de chocolat. Je dis, ah, attention, attention, parce que là, ça devient un peu trop fort.
Ouais. Il se réveille à 4h du matin, mais il fait ça où? Alors, il a lui-même fabriqué des poids à la maison, comment il fait?
Oui, oui, normalement, il a fabriqué des poids à la maison, il le fait au salon pendant qu'on dort, donc il utilise le salon pour faire du sport. D'autres, parfois, ils voient des coachings, donc dans les vidéos YouTube, il est là, il veut travailler sur place. Donc, pour essayer un peu d'améliorer son corps. Donc, en regardant aussi les stars des États-Unis, bon, comme lui, il aime bien le foot. Donc, il veut paraître avoir une bonne silhouette comme les autres. Et il a cassé, vraiment, il a beaucoup cassé parce que il a pris une autre forme, on dit à ça. Vraiment, il était un peu costaud, mais là, il a cassé un peu. Et on dit, bon, c'est bon, il faut maintenant t'arrêter par là, parce qu'il ne faut plus trop t'abuser pour ne pas causer d'autres maladies.
Et il vous écoute ou pas quand vous lui dites ça?
Oui, il m'écoute parce que, bon, je suis obligé d'être regardant, parce qu'à un moment, il avait fait des poids et sa mère est obligée d'enlever cela de la maison, parce qu'on a dit, non, 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 il ne faut pas que ça soit maintenant du fanatisme. Il faut faire le sport, mais il faut réguler les choses. Il faut aller avec le temps. Il y a un temps de l'école, il y a un temps de sport. Donc, il faut éviter ce genre de choses.
Ouais, forcément.
Donc, parfois, ils aiment imiter les autres. Et puis, ça devient aussi comme un peu des défis entre jeunes. Quand ils jouent au ballon, pour voir est-ce que l'autre a vraiment un bon corps physique, est-ce qu'il a des tablettes, il a un ventre bien plat. Donc, il faut travailler. Donc, ils se mettent à travailler les uns les autres. Ils se font des défis un peu. Voilà, moi, je suis mieux. Voilà, je fais tel nombre de pompes, tel nombre de la musculation pour avoir ce corps que j'ai.
Ouais, je me compare.
Donc c'est soit un peu la compétition, la jeunesse aussi. Ouais. On dit que chaque génération a son époque. Et maintenant, c'est une nouvelle époque où les jeunes s'adonnent beaucoup au sport. On voit même dans la ville aussi, parce qu'il y a des gens qui en font, des endroits publics où vous pouvez aussi aller vous entraîner. Vous passez au moins peut-être une heure de temps et vous faites de la fitness pour essayer un peu de travailler votre corps.
C'est ça.
Ouais. Donc, après, vous pouvez partir. Donc, c'est un peu ça. Il y a des salles, il y a beaucoup de salles maintenant aujourd'hui.
C'est bien, mais pas trop quand même. Ça, c'était l'avis du papa. Merci beaucoup, Armel, du côté de Libreville. Jérôme Quadrado, voilà ce fils-là qui se réveille à 4h du matin. Le risque d'addiction psychologique, parce qu'il est là quand même, malgré tout. Qu'est-ce qu'on appelle la dysmorphie musculaire?
Alors, pour répondre déjà, d'entendre le témoignage de ce papa, effectivement, là aussi bien j'étais rassuré dans le témoignage des auditeurs précédents, autant là je peux être un peu plus inquiet par rapport à ce qu'il évoque. Et effectivement, ce qu'il évoque, vous faites bien de le mentionner, là ça pourrait éventuellement cocher les critères de ce qu'on appelle la dysmorphie musculaire. Alors qu'est-ce que c'est la dysmorphie musculaire? C'est une préoccupation obsessionnel de ne pas avoir un corps assez musclé et sexy, une dysmorphophobie corporelle. Hein. Et les gens vont développer des comportements caractéristiques. C'est par exemple des nombreuses heures à s'entraîner à la salle de sport, une attention poussée sur la diète. Et on va retrouver surtout une préoccupation très excessive qui va créer une détresse clinique significative et une altération du fonctionnement quotidien. Et là, si on reprend du coup le cas de l'enfant du coup de votre auditeur, oui. On a une altération du fonctionnement social, se lever très tôt le matin, éventuellement pour s'entraîner, ça veut dire qu'on se couche peut-être tôt aussi pour respecter le temps de récupération, donc beaucoup moins de vie sociale. On va avoir une obsession du corps, les tablettes de chocolat, les biceps, on est sur une obsession idéative, là c'est vraiment un critère de dysmorphophobie. Un impact relationnel, ça peut créer des conflits avec ses parents, et comme le disait le papa, il y a une compulsion de pratique rigide. C'est-à-dire que là, il n'y a pas possibilité de tergiverser, c'est là la pratique, elle va rythmer mon quotidien de manière inflexible et c'est ça qui rend un caractère inadapté et éventuellement un caractère pathologique à la pratique. Donc, c'est pas la pratique qui est pathologique, oui. Mais c'est la façon de le faire qui la rend compte, on va dire, plutôt d'une pratique problématique. Donc effectivement, là, par rapport à ce qu'on a pu voir, au vu des critères diagnostiques de la dysmorphie musculaire, on pourrait y penser, ça pourrait bien l'illustrer en tout cas.
On ne se voit pas assez musclé, assez mince, avec, comme vous le disiez, des conséquences sur le plan alimentaire. Certains font des diètes et puis d'autres prennent énormément de compléments alimentaires, voire des produits dopants. C'est une vraie nouvelle problématique ou pas tant que ça, Guillaume Vallée ?
Alors, la pratique, si je parle un petit peu large, elle a toujours été finalement marquée, pour moi c'est pour ça que je fais le lien avec le capitalisme, par cette idée d'en vouloir toujours plus, d'avoir des limites qui sont toujours franchissables, il y a de l'infini quelque part. Et ça, cet infini, je pense qu'il est accentué aujourd'hui par potentiellement par l'influence des réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux, ils vous connectent à une réalité sociale qui fait que vous désirez sans cesse de nouveaux modèles, de nouvelles choses, mais vous désirez aussi ce que les autres ont. Donc c'est une logique de miroir qui est potentiellement infinie, donc il y a de la frustration à gérer pour les individus, et elle est d'autant plus problématique que construire un corps musclé, ça prend énormément de temps, parce que la production, elle est très monacale, elle est très ascétique, comme on dit, il faut faire beaucoup de sacrifices. On a vu dans le témoignage précédent, et puis avec la réaction de Jérôme derrière, que on voit que s'organiser, ça, c'est contraignant, que c'est pas si évident que ça crée beaucoup de perturbations dans la vie quotidienne, et tous ces sacrifices-là, ils sont pas toujours bien facilement acceptés par les individus. Donc, si les individus peuvent raccourcir le cycle de production, si je parle en économiste, ils vont parfois chercher des méthodes pour le faire. Et c'est là que le dopage rentre en ligne de compte. Alors, le dopage a toujours existé d'une certaine manière, mais aujourd'hui, on voit bien qu'il y a tellement de modèles de référence, tellement d'infinis de désirs dans la tête des individus qu'ils vont chercher ces possibilités de raccourcir le processus de production. Et puis, l'offre, elle est mondialisée. Moi, je suis toujours aussi marqué par les témoignages. On voit qu'il y a une forme de mondialisation culturelle aussi derrière tout ça, quoi. Les modèles qu'on voyait dans certains pays il y a 20-30 ans sont aujourd'hui généralisés, ces rapports au corps se sont généralisés, et donc tous les produits qui peuvent permettre finalement d'accélérer le processus de production du muscle, comme je l'ai dit, vont être aussi plus facilement atteignables potentiellement.
Avec tout le business aussi du complément alimentaire, hein, ou même les influenceurs sociaux qui portent des marques de compléments alimentaires. On est dans un vrai business aussi, hein, Jérôme Quadrado.
Oui, en effet. Alors, moi j'aime beaucoup la formulation du capitalisme des vulnérabilités qu'emploie Guillaume, parce que on va, dans une vision, on va dire, d'un modèle assez global, on va rencontrer des individus qui ont des vulnérabilités, des trajectoires développementales avec, voilà, des fois des traumatismes, avec des raisons aussi qui peuvent être des déterminants, la dysmorphie musculaire. Et dans cet environnement-là immédiat, ils vont trouver des moyens de s'ajuster d'une manière, on va dire, parfois précaire, parfois inadapté. Et cette manière de s'adapter, effectivement aussi, des fois, c'est d'être un peu dans cette prévention de l'échec, ou effectivement cette logique d'accéder rapidement, le plus rapidement possible, à une muscularité, à un corps très idéal. Et le problème, c'est la rencontre avec les messages qu'on peut rencontrer sur les réseaux sociaux. Et bien, effectivement, c'est à travers ces athlètes, ces égéries fitness, qui peuvent promouvoir à un moment donné une pratique inadaptée. C'est-à-dire qu'on va avoir des messages sur les pratiques diététiques rigides, des règles d'exercice aussi tout aussi rigides, des bénéfices d'une muscularité vraiment hyper musculaire, hein. On est vraiment sur des fois quelque chose d'inadapté, et aussi une marginalisation, on va dire, de tout ce qui n'est pas en vertu de construire du muscle, et aussi mettre en avant le fait que consommer des compléments alimentaires, c'est quelque chose qui doit être usuel de la pratique, voire jusqu'à, on va dire, une pratique un peu plus poussée sur des produits dopants. Et là, effectivement, il y a un réel risque, ça a été relevé par l'ANSES sur les rapports Nutri-Vigilance sur les compléments alimentaires destinés destiné aux sportifs, on va avoir du coup souvent un non-respect des posologies, un non-respect de la traçabilité de certains produits et des fois même des compléments alimentaires qui peuvent être, on va dire, des fois contaminés, on va dire, par certains produits dopants qui ne sont pas encore listés par la WADA. Oui, ouais. Et c'est déjà arrivé. Ouais.
On a un dernier appel, c'est Mamadou qui nous appelle de Saint-Louis au Sénégal. Bonjour Mamadou.
Bonjour.
Alors dites-moi, par chez vous, est-ce que les salles de sport sont accessibles financièrement pour tous ou ça reste encore un luxe?
Bon, ici ce qu'on voit au Sénégal, c'est que les salles d'entraînement ne sont pas trop accessibles. Hein. Il faudra donc être dans certaines classes pour pouvoir y accéder, quoi. Mais néanmoins, les jeunes, par exemple, prennent les pots et de remplir, comment dirais-je, un mélange de sable et du ciment.
Oui.
Et pour pouvoir utiliser comme étant des palliatifs, comme ce qu'on fait dans la salle de musculation.
Oui, c'est ça.
Si c'est bon pour la santé ou pas. Ouais.
Ils fabriquent leur propre poids, ouais, forcément. Et au Sénégal, bah, là aussi, c'est un phénomène qui touche les jeunes plutôt urbains, hein, c'est ça, les salles de sport, enfin, en tout cas, l'obsession de la musculation.
Oui. Et bon, tranche d'âge entre 20 jusqu'à.
Oui, forcément. Merci pour votre témoignage, Mamadou. On va changer de continent et cette fois-ci, je vous propose d'aller au Brésil.
8 milliards de voisins.
C'est vraiment quelque chose qui crée la proximité. C'est être ouvert à la rencontre de l'autre sans aucun a priori.
C'est un village mondial, donc on est tous des voisins.
Même si géographiquement, on est effectivement dispersés,
on existe ensemble.
Et nous sommes en ligne avec notre correspondante à Rio de Janeiro, Sarah Cozzolino. Bonjour Sarah.
Bonjour Laurence, bonjour à tous.
Alors à Rio, il y a une vraie obsession pour le corps parfait. Alors quand on parle de perfection, corps avant tout musclé mais bronzé aussi, c'est ça?
Oui, c'est ça. Rio, c'est une ville où il fait chaud quasiment toute l'année. Alors forcément, les corps, ils s'exposent plus. Des maillots de bain ou des shorts avec le moins de tissu possible, c'est l'occasion de montrer ce corps travaillé. Et ça commence très tôt le matin, près des plages, quand il fait encore nuit. On a les cyclistes ou les triathlètes qui commencent leur entraînement vers 4 heures du matin. Ensuite, quand le soleil se lève, il y a ceux qui font du canoë ou de la natation en mer, du volley, de la course à pied ou encore simplement des cours de gym ou de boxe, les pieds dans le sable. Il y en a pour tous les goûts, tous les âges et tous les budgets. Des cours gratuits pour le troisième âge sur les places, en passant par les salles de sport à l'air libre avec des poids en béton. Mais il y a aussi, pour les plus fortunés, ceux qui ont leur personal trainer, leur coach individuel, qui les font transpirer tous les matins. Sur les réseaux sociaux, de nombreux influenceurs montrent leur routine parfaite, qui commence par une activité physique le matin. Il y a quelques jours, c'était le président Lula lui-même sur son compte officiel qui se mettait en scène en train de courir autour du palais présidentiel. « Je prétends vivre jusqu'à 120 ans en faisant beaucoup de sport », déclarait Lula en short de foot.
Oui, alors bon, et puis on le sait aussi que les Brésiliens sont des grands amateurs de salles de sport. On en compte plus de 32 000, c'est énorme. C'est le deuxième pays au monde qui en a le plus derrière les États-Unis, Sarah.
Oui, c'est l'académie, comme on l'appelle, la salle de sport au Brésil. Et c'est presque une religion. Un Brésilien sur quatre en fréquente une assidûment. Et le paradoxe, c'est qu'aussi un Brésilien sur quatre est obèse dans ce pays de tous les extrêmes où la nourriture industrielle est présente dans de nombreux foyers brésiliens, un peu comme aux États-Unis. Que ce soit des méga chaînes de grandes salles de sport aux petites salles de quartier, on en trouve vraiment partout. Et le Brésil est l'un des pays où les abonnements sont le moins cher, aux alentours de 15-20 euros par mois. Aller à l'académie, assez valorisé socialement ici, contrairement à la France qui est dernière du classement des pays qui fréquentent les salles de sport. Au Brésil, vous êtes encouragé à poster des photos sur les réseaux sociaux, un selfie en sueur, une vidéo en train d'exécuter vos mouvements sur les machines. Tout est fait pour que vous puissiez vous montrer en train de faire du sport. Ce qui est très impressionnant, c'est que vous y alliez à l'ouverture à 5 heures du matin ou à 22 heures, il y aura toujours du monde, sans compter qu'il y a des salles de sport qui sont ouvertes 24 heures sur 24.
Ouais, tout à l'heure avec nos invités, Sarah, on parlait des formes d'addiction. Quelles sont les dérives de cette recherche du corps parfait ?
Eh bien, du côté des hommes, de plus en plus prennent des stéroïdes pour pouvoir avoir un corps toujours plus musclé et toujours plus rapidement, hein, comme vous le disiez. La vente de ces hormones de croissance à base de testostérone, elle est interdite au Brésil, mais finalement, c'est assez facile à trouver sur Internet. Et les risques, ben, ils sont élevés. Problèmes cardiovasculaires, rénaux, infertilité, cancer. Certaines salles de sport affichent même des panneaux pour prévenir leurs clients contre ces risques. Du côté des femmes, il y a aussi des dérives pour être forcément plus musclées et plus maigres à la fois. Elles ont parfois recours à un implant surnommé l'implant de la beauté. Là aussi, ce n'est pas sans risque. Les médecins mettent en garde contre un marché sans régulation ni études scientifiques, avec pour conséquence des risques d'infarctus, d'embolie pulmonaire ou encore d'AVC.
Merci beaucoup Sara Cozzolino, notre correspondante à Rio de Janeiro. Guillaume Vallée, en France, en Europe, on est peut-être encore un peu loin de cette obsession à ce point-là culturelle du corps soi-disant parfait. Mais en Occident, on n'a jamais parlé autant d'obésité, de sédentarité. L'un et l'autre sont liés.
Oui, ils sont liés parce qu'en fait, bon, pour moi, il y a une forme de rattrapage. J'ai parlé tout à l'heure de la mondialisation. Dans le capitalisme, vous avez toujours eu des économies leaders qui diffusent leur économie, leur puissance économique, mais aussi leur certaine puissance culturelle. Et c'est le cas aujourd'hui, pour l'instant encore, des États-Unis, où cette culture du muscle, telle qu'elle s'est conçue historiquement, a été de diffuser ce modèle de la salle de sport, de l'entretien de soi, du toujours plus, bref, plutôt la culture du bodybuilding, qui après a pris différentes formes, on l'a dit, mais en tout cas, c'était plutôt ça. Et là, aujourd'hui, effectivement, on voit qu'il y a pour moi un phénomène de rattrapage, parce que les jeunes en particulier sont exposés à travers les séries, à travers les influenceurs qui sont mondiaux, à cette volonté d'aller toujours plus loin et de se construire ce corps.
Je vous interromps deux secondes, mais pas que les séries, hein, parce que tout à l'heure, Sarah parlait du président Lula qui se met en scène en train de courir. Bon, forcément, vous avez vu cette photo devenue virale du président Macron boxeur. D'ailleurs, beaucoup ont critiqué cette mise en scène viriliste, mettant en doute d'ailleurs un biceps un petit peu trop gros retouché par l'image. Voilà, on se souvient de Vladimir Poutine et ses photos torse nu à cheval. On ne peut pas ne pas parler aussi des images que véhiculent nos chefs d'État, Guillaume Vallée.
Complètement, oui, mais parce que justement dans le capitalisme des vulnérabilités, puisqu'il y a ces vulnérabilités et que l'État se désengage sur un certain nombre de politiques, par contre l'État est chargé de montrer qu'il est là pour protéger d'une certaine façon ses citoyens en revenant à des fonctions régaliennes, et que les grands chefs, entre guillemets, vous prenez même à sa manière Donald Trump, George Bush à sa manière aussi, mettait en scène ses modèles de référence au corps et à la maîtrise, au contrôle de la situation, passe par justement une mise en scène du corps où le muscle est vraiment mise en avant avec, comme vous le dites, cette dimension viriliste. Et donc ça aussi, forcément, ça influence. Oui, je suis tout à fait d'accord.
Ouais, vous avez la même lecture, Jérôme Quadrado.
Comme on évoquait tout à l'heure, hein, mais la culture occidentale, elle a toujours mis en avant ce côté viriliste, hyper musculaire, de la puissance. Donc effectivement, on reste tous des humains et sensibles, on va dire aussi, à ce message-là, qui est aujourd'hui aussi le fond d'un commerce dont on parle là tout au long de l'émission.
Oui, forcément. Peut-être aussi, mais ça sera l'objet d'une autre mission, tous les fantasmes autour du corps peut-être augmenté, du corps parfait, du corps transhumaniste.
Ah ben, peut-être, effectivement, nous sommes aussi au début de beaucoup de choses. Et est-ce que ce qu'on a évoqué aussi par rapport à votre correspondant à Rio, mais l'utilisation, vous voyez, par exemple, des compléments alimentaires des systèmes sportifs, du dopage, on peut retrouver ça aussi bien sur les hormones de croissance, de la testostérone, des analogues. Enfin, on a beaucoup aujourd'hui de produits qui sont aussi très faciles d'accès sur les enquêtes qu'on réalisait, sur les pratiquants de salles de sport, rencontrer, vous voyez, une prévalence de dysmorphie musculaire chez les pratiquants en France qui était entre 18 et 20%. Et vous savoir que dans cette population de pratiquants, hors dysmorphie, il y avait 42% du coup de pratiquants qui consommaient des compléments alimentaires et 64% chez ceux qui présentaient la dysmorphie musculaire. On a très peu de données sur le dopage, mais sur une pratique de terrain, sur une observation de terrain, je peux vous assurer qu'on a une consommation qui passe aussi aujourd'hui comme quelque chose de beaucoup plus facile sur Internet. Vous pouvez accéder à n'importe quel produit rapidement. Et là, on est encore sur des choses peut-être un peu soft, mais on a parlé aussi beaucoup du synthol, beaucoup de bodybuilders outre-Atlantique, que ce soit nord-américains nord-américains, ou du coup des pays comme le Brésil, ont eu recours à cette transformation du corps à travers la chirurgie esthétique et des artifices.
En tout cas, merci à vous deux pour vos lumières. Merci Jérôme Quadrado, psychologue clinicien, préparateur mental à Bordeaux, chercheur associé au laboratoire ISCJ de l'Université de Bordeaux. Merci à vous Guillaume Vallée. Je rappelle le titre de votre ouvrage passionnant, La fabrique du muscle chez l'échappé. Et on remercie encore une fois les équipes techniques de France Bleu Isère à Grenoble et notamment Frédéric Cabri et Thomas Fourin. Merci à tous les deux. Allez, on se quitte avec Chinese Man et Too Late sur RFI. The poison is in the doses, the toxins, the antidote. If the sun come from God, somebody gotta be Joseph. Blood on my hands, cause Papa handed me roses. Branded me dope, but not enough for Carnegie Hall. Traveled the globe, but still struggle to try to be whole. Part of the Odyssey, home, a jar that is how to be home. The hero journey, Greek old, ego death is cheat code. Free myself through keyholes, he done left the pitfall. Same toilet, different shit show. Do me your stogie, same schizo. Rumi your Allan Poe, grim prose. Julie blossoming to primrose, kinfolk, trees fall far from the apple cider, gin toast. Fix the rider to have lick yours, appetizer's main course, but don't get hung over the painful. Got a stomach odor aches though, mud come with rain, so jump around my house a pain song.
Bordel dans ma DeLorean, survole ce vortex. Too late to regret, j'ferai ça post-mortem. Rien dans le tiroir, qu'est-ce qu'il faut que j'fasse le reste. Oh mais j'ai plus d'une vie, mais chaque fois ça passe plus vite. Là où on s'aime, baby, il fait jamais nuit. Laisse-moi porter mon espoir comme un zéport des rayures. Quand j'colorie, elle dépassait volontairement de la bordure. Cette life, c'est une torture, mais y'a pas plus sweet. Ça réouvre les bobos d'écrire, mais on me félicite. J'vais pas te faire un dessin champion, c'est assez explicite. Si tout s'arrêtait maintenant, j'regretterais pas d'être impulsif. Les évidences aussi peuvent paraître difficiles. S'il y a un canard blanc dans un lac, est-ce que je dois le voir comme un signe? Les mensonges donnent des épines et pas des fruits. Je reste vrai parce qu'il me reste que maintenant et ici, c'est ici.
Passing memories. What was mine is now yours. Too late to wait, too soon to go. As a new age unfolds. Too late to wait, too soon. As the youth shakes the old. The dawning of the beautiful. The sparking of the crucible.
Chinese Man et Too Late, un titre retrouvé sur la playlist de RFI. 8 milliards de voisins, de voisines, c'est fini. Merci à toute l'équipe, Romain Dubrac, Juliette Brault, Delphine Cachin et Tom Malky. Lundi à la même heure, vous retrouverez Emmanuel Bastide pour une rediffusion d'une émission consacrée à la filière du cacao durable au Togo. Bon week-end à l'écoute de RFI.